pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, hurrah, victoire, fierté. 83% des Français sont contents que Paris accueille les Jeux Olympiques durant l'été 2024. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle? Les JO de Paris seront écolos et économes, nous promettent les organisateurs. Eh bien, c'est peut-être possible et nous pouvons compter sur la vigilance d'une nouvelle organisation, SANSSI, pour sport et durabilité internationale. Son président sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
581 romans et recueils de nouvelles, tel est le volume de la rentrée littéraire 2017. Derrière chaque livre, il y a bien sûr une création artistique, mais aussi, et cela personne n'en parle, un bilan social et environnemental de plus en plus désastreux. Surtout que cette année, la mode est au gros livre. 700 à 1000 pages, le journal Le Monde signe un article, le pavé tendance lourde, point d'interrogation, sans s'inquiéter un seul instant d'ailleurs des conséquences de cette industrie. Heureusement que les équipes du Basique, le Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne, sont là pour nous alerter. Bonjour Mario Müller et Christophe Alliot.
Bonjour.
Alors vous venez de publier une étude justement sur les coulisses de l'édition et les conclusions, Christophe Alliot, sont surprenantes puisque vous dites que derrière chaque euro de bénéfice pour l'éditeur, il existe un coût caché, social et environnemental de 75 centimes. Alors expliquez-nous comment c'est possible.
Alors, comment c'est possible? D'abord, ce coût social et environnemental, c'est quoi? C'est des dépenses publiques que différents pays, à commencer par la France, prennent en charge pour supporter ou pour lutter contre des conséquences négatives de comment la filière fonctionne, en démarrant l'exploitation forestière jusqu'à l'achat et au recyclage des livres. Grosso modo, ces coûts sociétaux, ça correspond à quoi? Si vous avez une usine au Brésil, on va dire au hasard, qui va rejeter des polluants dans l'eau, pas complètement les filtrer, et bien vous avez après un coût de dépollution en aval pour rendre l'eau potable, et ça c'est à la charge des citoyens, des villes qui doivent essayer de s'approvisionner. C'est typiquement ce genre de dépenses. Et du coup, on a mesuré qu'il y avait la moitié des coûts sociétaux sur tout l'amont de la filière, c'est-à-dire toute la fabrication du papier, et l'autre moitié, et jusqu'à l'impression, et l'autre moitié sur tout l'aval.
Alors l'aval, c'est-à-dire ?
Alors l'aval, c'est-à-dire c'est la chaîne du livre, ça démarre à l'impression et ça va jusque, donc ça passe par l'édition, la distribution des livres jusqu'au point de vente, les achats et puis la partie du recyclage. Alors à quoi ça correspond ? Pour la moitié, c'est des coûts environnementaux, c'est-à-dire ce sont des dépenses de lutte contre les différentes pollutions, contre la surconsommation d'eau par le secteur, le changement climatique qui est associé. Alors c'est pas pour dire que le secteur, notamment du papier, n'a pas fait de beaucoup de travail, il y a eu des efforts de fait. Simplement aujourd'hui, ça ne prend pas tout en charge en France, et quand on est sur des pays étrangers comme le Brésil, pour le coup, là, les dépenses sont vraiment remises sur la société. Et après, il ne faut pas oublier la partie sociale qui était importante aussi tout le long de la chaîne, ce sont des sous-rémunérations, notamment justement sur des pays comme le Brésil. C'est aussi beaucoup de chômage, puisque le secteur du papier, le secteur de l'imprimerie, le secteur de la distribution et des points de vente sont des secteurs qui détruisent beaucoup d'emplois, ça veut dire un coût du chômage qui était à charge de la société. Et puis, on ne le sait pas toujours, mais beaucoup de subventions publiques dans les différents pays, à commencer par la France, pour essayer de lutter contre cette disparition des emplois, maintenir la compétitivité, essayer de sauver ce qui peut l'être.
Eh bien voilà un tableau noir bien dressé. Marion Müller, le livre est un objet de consommation de masse et on observe une vraie concentration du secteur qui explique notamment cette situation.
Tout à fait. On est aujourd'hui sur un secteur du livre français très concentré, avec trois grands groupes qui font plus de 50% du chiffre d'affaires. Cette concentration est d'autant moins visible depuis l'extérieur, puisqu'on a une diversité encore des noms des maisons d'édition. Mais derrière, on a bien trois grands groupes que sont Hachette, Editis et Madrigal, qui font plus de 50% encore une fois du chiffre d'affaires. Cette concentration est historique et a connu tout un développement depuis le début du XXe siècle, mais s'est accélérée dans les années 80, à partir du moment où les grandes maisons d'édition ont été intégrées et rachetées par des grands groupes mondialisés. Et là, je pense notamment à la première qui est Hachette, qui a été rachetée par le groupe Lagardère.
Et c'est à partir de là que le bilan environnemental et social du monde de l'édition, finalement, s'est détérioré.
Alors, on ne peut pas faire forcément une corrélation directe. Ce qu'on sait et ce qui nous a été rapporté, que ce soit de la bibliographie qu'on a utilisée pour le rapport ou même des acteurs du secteur du monde de l'édition, justement, c'est bien que ça a changé, ça a bouleversé quelque chose à l'intérieur du secteur de l'édition française. C'est déjà Bourdieu qui le posait dans les années 90 et qui expliquait la rentrée, finalement, du marketing, du management dans les maisons d'édition françaises, qui était sur le jusque-là assez préservé par ces enjeux. Donc Bourdieu le posait déjà dans les années 90, ça a été répété par plusieurs autres auteurs tout au long des années 2000, et aujourd'hui on arrive à un constat où oui, on a des maisons d'édition qui sont très imprégnées par cette dimension rentable du livre, où on va avoir une réflexion beaucoup plus en termes économiques, financiers, que ce soit sur le livre, l'impression ou le papier.
Résultat, comme vous l'expliquez dans votre rapport, les fabricants de livres s'approvisionnent majoritairement auprès d'une filière mondialisée, du papier, dont les impacts environnementaux et sociaux sont peu connus. Bonjour François Cardona.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes notre correspondant à Rio de Janeiro. Alors l'industrie brésilienne représente près de la moitié des importations de pâte à papier en France, du papier produit grâce à d'immenses plantations d'eucalyptus.
Oui, au Brésil, la production de pâte à papier croît plus vite que n'importe où ailleurs dans le monde. Ces 8 dernières années, ses capacités de production ont augmenté d'environ 1 million de tonnes chaque année. 86% de cette cellulose vient d'un seul et même arbre, l'eucalyptus. Le reste vient majoritairement du pin. Le Brésil compte aujourd'hui plus de 7 millions d'hectares d'arbres, d'eucalyptus, donc plantés uniquement pour fabriquer de la pâte à papier. C'est la croissance rapide de cet eucalyptus qui en a fait un arbre phare, mais aussi la qualité de son bois. Une fois planté, l'eucalyptus est prêt à être coupé entre 5 à 7 ans. Reste que la transparence et la traçabilité du bois brésilien est toujours problématique. À peine 60% de cette production est certifiée par le label FSC, Forest Stewardship Council. C'est une ONG qui a développé le premier système de certification de produits forestiers.
Et la production de pâte à papier est très soutenue par les autorités brésiliennes malgré plusieurs polémiques.
Oui, alors le secteur est dominé par de grandes entreprises comme Fibria, Suzano ou Cabline. Elles ont réussi à enregistrer d'importants profits en 2015 malgré la crise économique qui frappe le Brésil. C'est une industrie qui est aujourd'hui largement soutenue par les institutions publiques brésiliennes, autant les banques que les législateurs. Dans l'état agricole du Mato Grosso do Sul, par exemple, les restrictions environnementales ont été levées pour les plantations d'eucalyptus. Et en 2015, la Commission nationale de biosécurité a même approuvé la commercialisation d'arbres génétiquement modifiés à la demande des entreprises du secteur. Le Brésil est ainsi devenu le deuxième pays après la Chine à autoriser cela. Cependant, de très nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les méfaits de cette monoculture d'eucalyptus. Les associations de défense des tribus indigènes s'insurgent régulièrement contre l'appropriation illégale de terres par les grands propriétaires terriens.
Alors justement, on entend régulièrement parler des conséquences de la monoculture d'eucalyptus, comme le mentionne d'ailleurs le rapport du BASIC dont nous parlions avec nos invités. Qu'en est-il réellement sur le terrain ?
Alors j'ai pu m'entretenir avec plusieurs chercheurs brésiliens qui travaillent sur l'impact de ces plantations d'arbres sur l'environnement, mais aussi sur la santé des travailleurs, car les agrotoxiques utilisés pour la culture massive d'eucalyptus génèrent de grandes inquiétudes, d'autant plus préoccupantes qu'aujourd'hui les études indépendantes sur la santé des travailleurs restent limitées et régulièrement contredites par celles produites par les grandes entreprises du secteur. Et puis, autre problème, celui de l'assèchement des sols, la culture de l'eucalyptus ainsi que la fabrication de la pâte à papier dans les usines nécessite une très grande quantité d'eau. Cela génère des inquiétudes, bien sûr, sur l'assèchement des nappes phréatiques, autant d'éléments qui ne semblent pas être pris en compte pour l'instant par les grandes multinationales. Leur capacité de production devrait encore augmenter de près de 30% d'ici à 2020.
Merci François Cardona.
Au revoir Anne-Cécile.
Marion Müller, c'est exactement ce que vous dénoncez dans votre rapport. La situation au Brésil est quand même assez inquiétante.
Tout à fait. Peut-être juste pour rappeler en préalable, on est sur effectivement une industrie du papier brésilienne qui s'est fortement développée, qui est le symbole finalement de la mondialisation de l'industrie papetière telle qu'elle est aujourd'hui, qui s'est internationalisée, qui a favorisé le développement de pays émergents qui produisent de la pâte à papier et du papier à partir d'eucalyptus clonés en monoculture, etc. Mais ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'il est produit, ce pâte à papier, commoditisé, et produit pour un marché international principalement tourné d'abord sur les papiers d'hygiène, les papiers carton qui sont notamment pour les pays d'Asie. Et donc dans tout cela, les éditeurs dont on parle aujourd'hui dans ce rapport ne sont qu'un petit client de cette filière mondialisée qui a connu sa propre dynamique et qui n'a pas été directement lié au secteur du livre français. Mais en tout cas, pour ce qu'on constate au Brésil, le Brésil est aujourd'hui le premier exportateur de pâte à papier vers la France. Et c'est une pâte à papier qui après va servir à produire du papier en France. Et clairement, on est sur une dynamique très forte où on a un Brésil qui ne comptait quasiment pour rien il y a encore 20 ans et qui aujourd'hui représente vraiment le premier exportateur, plus de 50% de la pâte à papier importée en France.
Alors vous posez la bonne question, hein, c'est quelle est la marge finalement de manœuvre des éditeurs? Bonjour Pauline Capitani.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la production papier et numérique chez Actes Sud, une maison d'édition très engagée sur le fond, hein, puisque vous publiez de nombreux livres justement sur les enjeux du développement durable. Mais sur la forme alors, finalement, que pensez-vous de ce rapport? Est-ce que cela vous a surpris?
Surprise non, pas du tout en fait. Je trouve ce rapport absolument intéressant parce que c'est précis et synthétique justement sur les différentes problématiques de la filière. Effectivement, ça formalise également toute la problématique en amont liée au papier pour lequel, en tant qu'éditeur, on a peu de levées d'action. Mais ça formalise aussi, ce qui n'a pas tellement été évoqué encore jusqu'à présent, la partie aval avec la gestion du partenariat avec nos imprimeurs et la gestion du gaspillage qui est évoqué dans la seconde partie.
Alors justement, vous dites donc en gros que sur le papier, vous avez une marge de manœuvre qui n'est pas très importante, hein, parce qu'à partir du moment où ça s'est mondialisé, vous-même vous approvisionnez là où on produit du papier. Mais par contre, sur la production en tant que telle, c'est ça, vous dites que vous
oui,
pouvez davantage gros, agir sur les lieux d'impression, des choses comme ça?
C'est ça. Je crois que depuis longtemps, et même depuis le départ, on a l'intuition qu'il faut essayer de faire les choses correctement, donc que ce soit des choses bien faites, de qualité, pensées durablement, économiquement aussi, évidemment. Et donc, du coup, depuis le départ, on essaye de maîtriser nos partenariats et nos lieux d'impression. Donc, en ce qui nous concerne, pour le Sud, la grande majorité de notre texte est imprimé en France et la partie Bolivre et couleurs en Europe, Italie, Espagne. Il reste qu'une certaine part, on ne maîtrise toujours pas, puisqu'il y a, avec tout ce qui a été évoqué dans le rapport, une perte de savoir-faire en France et en Europe qui nous pousse à aller en Asie pour certains objets, les pop-up, les tout-cartons, etc., qui sont des livres jeunesse, donc. Voilà. Donc sinon, on essaie de maîtriser vraiment cette partie impression locale en développant avec nos partenaires une continuité pour que justement on reste réactif, compétitif et qu'on fasse des choses bien faites.
Et alors je reviens sur le papier quand même parce que vous produisez des quantités, enfin vous avez peut-être les chiffres en tête. Vous, quelle quantité de livres vous produisez par an chez Actes Sud?
En nouveauté, on doit être à peu près entre Actes Sud et éditeurs associés à 1000 nouveautés.
Oui, 1000 nouveautés, donc ça fait quand même
réimpression.
Ça fait beaucoup de pages, plus les réimpressions. Oui. Comment vous approvisionnez?
Pour le papier?
Oui.
Essentiellement via des distributeurs. Pour la plupart, on va dire, de notre texte, comme on a suffisamment de tonnage, on va l'acheter directement. Et pour quelques ouvrages, type Bolivre, jeunesse, on ne va pas attendre les fameux 3 tonnes, ça va être l'imprimeur qui va nous fournir en papier.
D'accord. Et est-ce que vous pensez que ce rapport va permettre une prise de conscience dans le milieu de l'édition? Parce que vous me le disiez même en préparant cette émission, c'est vrai que l'envie de bien faire, tout le monde l'a, mais la prise de conscience, elle n'était pas forcément là dans ce milieu.
Je dirais pas qu'elle n'est pas là, je pense qu'elle est là depuis longtemps, mais elle n'est pas forcément formalisée. Et peut-être que la vertu d'un rapport comme celui-ci, c'est que ça synthétise et ça structure finalement le constat. Ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour avancer dans la bonne direction.
Alors,
je pense que le conseil y est depuis un moment, puisque notamment pour la partie gaspillage, pour la question des tirages, il est tout dans l'intérêt et de l'éditeur et du distributeur, etc., que les stocks soient maîtrisés, que l'on tire au plus juste, que l'on ne fasse pas des mises en place gonflées pour réduire après coup le pilon et le gaspillage.
Oui, c'est vrai qu'un livre sur quatre pilonné sans avoir été lu, le rapport est assez sévère. Christophe Alliot, vous écoutez attentivement Pauline Capitani et en même temps, je sens de la compréhension et de l'envie d'aller plus loin.
Oui, de l'envie d'aller plus loin parce que dans les entretiens qu'on a fait avec des personnes du secteur et encore une fois toutes les sources qu'on a mis ensemble, je pense qu'au-delà de l'exemple positif de la maison Actes Sud. On a aussi entendu que cette logique de surproduction était encore là, qu'il y avait encore quand même beaucoup de logique de financière à surproduire parce qu'il faut à tout prix limiter le coût du papier et le coût de fabrication du livre qui représente même pas 10% du prix du livre au final, et que c'était une pression pour dégager chez certaines grandes maisons d'édition sur une logique beaucoup plus financière que ce qui est dit là.
Oui, mais alors j'ai du mal à comprendre, si on produit plus, ça coûte plus cher, donc si après c'est pour aller pilonner les livres, c'est de la perte directe, non ?
C'est de la perte directe en masse, mais remise au livre, le coût du livre est moins cher parce qu'on en a fait beaucoup plus, et ça coûterait plus cher de faire des réimpressions et de tirer au plus juste et du coup de réimprimer en petits lots. Mais c'est plus un mode de fonctionnement général aussi du monde de l'impression et du monde de l'édition qui pourrait être intéressant de re-questionner en tous les cas. Et encore une fois, c'est surtout pas pour minimiser les engagements de certaines maisons d'édition qui font des choses bien et qui sont précautionneuses. Mais nous, on avait quand même moins l'impression que c'était déjà quelque chose de partagé au niveau de l'ensemble des maisons d'édition, notamment les plus grandes, et que c'était véritablement une prise de conscience d'un secteur. Surtout qu'on pense qu'il y a des marges de manœuvre et il y a moyen de faire des choses, encore une fois. Pour remettre le lien avec le papier, cette question de la pression sur le coût de production, elle est importante, parce que si le Brésil est monté autant ces dernières années, et notamment, on pense, entre autres, dans le papier qui sert à faire les livres, c'est bien parce que le papier est pas cher et aucune concurrence ne peut tenir en France face au prix auquel il arrive. Et donc, du coup, fatalement, si un éditeur commence à chercher à tirer les coups vers le bas, il y a quand même des risques que ça nous ramène vers le Brésil, alors que si jamais on est sur du mieux disant et qu'on dit voilà, il faut au moins un peu comme une logique de commerce équitable qu'on a pu discuter ici sur le cacao l'an dernier, en fait, c'est ce prix unitaire auquel on achète le papier et l'impression. Encore une fois, c'est que 10% du prix du livre final, et s'assurer qu'au moins les gens puissent en vivre et que ça puisse être dans les bonnes conditions, c'est aussi un élément important pour nous.
Alors Marion Müller, vous dénoncez plein de choses dans ce rapport, mais vous faites des recommandations aussi, hein. Donc finalement, si on devait hiérarchiser, quels conseils vous pourriez donner au milieu de l'édition ?
Alors, en toute humilité, puisqu'on reste des acteurs extérieurs, et je pense que c'est aussi aux acteurs du secteur qui pourront le mieux répondre aux enjeux qu'on pose dans le rapport. Nous, ce qui était déjà important pour nous, c'était de reposer une vision filière, car on pense que c'est une vision qui a été un peu perdue, justement. Je pense que le témoignage permet de voir que les éditeurs peuvent encore avoir une forme de contrôle et de mainmise et une connaissance de ce qui est l'impression, par exemple, mais il y a une perte de connaissance de ce qui est le papier. Et je pense que c'est important de retrouver une vision filière à ce moment-là, et c'est bien en retrouvant cette vision filière qu'on pourra déjà commencer à changer les choses de façon systémique et pas juste à un maillon précis, parce que c'est ce que je pense montre le rapport, c'est pas juste une question de quelques maillons isolés à certains endroits, c'est bien la logique d'une filière dans son ensemble qui est à retrouver. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que du coup l'idée, c'est déjà de prendre connaissance et acte de ce qui se passe avec toutes les divergences qu'il peut y avoir entre les pratiques des différentes maisons d'édition, mais encore une fois, on est sur quelque chose de global. Et à partir de là, nous, ce qu'on voit comme voie, il y a déjà potentiellement ce que pointait aussi Actes Sud, un effort peut-être de relocalisation de l'impression en France, peut-être un effort aussi de mieux s'intéresser à d'où vient mon papier, pas seulement se référer aux certifications, peut-être aller derrière la certification, demander aux certifications, mais mon papier est certifié, mais c'est quel pâte à papier qui est derrière, c'est quelle plantation d'arbres, dans quelles conditions. Je pense aussi que c'est la question du papier recyclé, qui aujourd'hui on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais clairement on a une sous-utilisation du papier recyclé aujourd'hui dans l'édition française, pour plein de raisons différentes, mais je pense que là aussi il y a une demande à créer au niveau du papier recyclé.
Christophe Alliot, vous voulez ajouter quelque chose sur les recommandations ?
Non, juste un petit mot de conclusion pour dire que ce qui nous paraît important, c'est encore une fois que les acteurs se mettent ensemble et qu'ils discutent, et que ces recommandations, c'est quelque part, c'est pas à nous de les faire vivre, c'est aux éditeurs, peut-être aux maisons d'édition comme Actes Sud qui ont l'air de vraiment faire des choses intéressantes, de se mettre autour d'une table avec des papetiers, avec des exploitants forestiers, peut-être avec quelques organisations ONG qui travaillent sur ces enjeux-là, et puis aussi avec des libraires, qui sont aussi quand même le dernier maillon extrêmement important de cette chaîne du livre pour nous en tant que consommateurs, et voir qu'est-ce que ensemble un certain nombre de ces acteurs pourraient faire pour initier quelque chose de positif et montrer une voie d'avant-garde, et que bien évidemment c'est pas facile, mais que c'est possible.
Merci à tous les deux d'être passés dans C'est pas du vent. Merci à vous, Pauline Capitani, d'avoir accepté de témoigner pour Actes Sud, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition qui se sont précipitées pour participer à cette émission. Restez sur RFI, juste après le flash d'info, nous verrons s'il faut se réjouir ou s'inquiéter du fait que Paris organise les Jeux Olympiques d'été en 2024. À tout de suite.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.